Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, c'est l'émission qui vous donne la parole juste après le prochain journal. Nous parlerons du racisme en Tunisie et plus largement au Maghreb à l'occasion de l'appel en début de semaine du Premier ministre tunisien. Il veut l'examen en urgence d'un projet de loi pénalisant les actes racistes. Il reconnaît que son pays a un problème. On veut entendre vos témoignages et vos réactions au 33 9 693 693 70 ou bien sur les pages Facebook et Twitter de l'émission. Avant cela, vos questions sur l'actualité. Et comme chaque jour, nos journalistes et nos experts pour y répondre. Aujourd'hui, on va parler de l'arrestation d'un Français au Niger, du mouvement séparatiste basque en France, d'un condamné à tort aux États-Unis, mais d'abord des relations entre le Japon et les États-Unis. C'est Dido qui a des questions à ce sujet. Dido, auditeur de Isiro, c'est dans le nord-est de la RDC. Bonjour Dido.
Bonjour Marie, heureux de converser avec vous.
Bien, heureuse de vous entendre sur notre antenne, Dido, et d'écouter vos questions.
Ok, mais on est chez eux à deux visites Pearl Harbor, 7 mois après qu'Obama se soit rendu à Hiroshima. Pourquoi avoir choisi cette année pour faire ces deux visites respectives? Quel message veulent-ils envoyer? Et je voulais aussi parler des excuses. Tous les deux refusent toujours de prononcer des excuses sur les deux attaques. C'est pas espéré qu'un jour, ils présenteront des excuses.
La visite donc de Shinzo Abe à Pearl Harbor, c'était hier et c'est Guy Bourg de la Motte qui va vous répondre. Maître de conférence à l'INALCO, chercheuse au Centre d'études japonaises. Elle est en ligne avec nous. Bonjour, Madame de la Motte.
Bonjour.
Alors effectivement, notre auditeur le soulignait, cette visite donc à Pearl Harbor survient 7 mois après celle de Barack Obama à Hiroshima, ville que les États-Unis ont bombardée en 1945. Pearl Harbor, c'est une base navale américaine bombardée il y a 75 ans, qui a fait plus de 2400 morts. Tout a l'air de se précipiter entre le Japon et les États-Unis. Pourquoi ça se passe maintenant et pas précédemment?
Alors effectivement, ça se passe maintenant certainement pour une série de raisons qui tiennent, enfin qui sont à la fois la fin du mandat de Barack Obama. Donc lui cherche à apporter un signal positif, à montrer qu'il est capable de gestes un peu grands, disons, dans le domaine qui vont faire date en matière d'histoire. Et puis du côté d'Abe Shinzo. Il a cette image de révisionniste qui cherche en fait à contrecarrer. Il n'est pas tout à fait mérité parce que elle tient à la fois à son histoire familiale et puis aussi à son histoire familiale, c'est-à-dire au fait qu'il est le petit-fils de Kishi Nobusuke qui a été soupçonné à un moment donné après la Deuxième Guerre mondiale de crimes contre l'humanité. Enfin, il a failli être jugé pour ça. Il a finalement été libéré. Donc il y a ce mélange de d'origine familiale, et puis Abe Shinzo par ailleurs a quand même eu des déclarations sur les femmes de réconfort qui montraient qu'il n'était pas, il adhérait pas tout à fait à la vision qui avait été proposée dans les années 90, qui était une vision de compromis entre Corée du Sud et Japon. Or depuis, eh bien, il cherche à revenir, à améliorer son image, à changer les choses. Il y a eu des progrès avec la Corée du Sud, et maintenant ces actes symboliques avec l'Australie également, on en a vu, des déclarations très intéressante, et là maintenant c'est avec les États-Unis, donc on voit ces gestes symboliques se produire. Donc tout ça arrive à un moment où en fait le Japon cherche à améliorer son image dans un contexte de montée en puissance de la Chine qui l'amène à avoir une position plus musclée en matière de défense, et donc pour ne pas s'aliéner ses voisins, pour avoir des bonnes relations avec des relations encore meilleures avec ses proches alliés, eh bien il adopte ce type il envoie ce type de message. Voilà la raison pour laquelle.
Quel type de message exactement aussi de la part de Barack Obama, parce que ni l'un ni l'autre n'a présenté d'excuses, l'un à Hiroshima, l'autre à Pearl Harbor?
Alors c'est ça, le message c'est pas en effet de dire on s'excuse, on aurait voulu que ça ne se produise pas. Non, c'est pas tellement ça. Ça s'est produit dans un contexte historique particulier. Il y a des explications historiques qui sur lesquels on ne revient pas. Donc on laisse le passé comme il est. En revanche, on montre qu'aujourd'hui, on comprend de part et d'autre les implications que ces gestes ont eues. Ces gestes, c'est-à-dire le bombardement d'Hiroshima, d'une part, et puis l'attaque de Pearl Harbor. Donc des décisions qui ont été prises dans un contexte historique particulier, qui ont eu des répercussions humanitaires, humaines, et très regrettables. Et voilà, le message, c'est bien celui-là, c'est bien, on regrette ce qui s'est passé, mais on pense aux victimes, mais si on se met à faire des excuses, en fait, ça peut avoir des implications juridiques. Est-ce qu'on donne des dommages d'intérêt? Est-ce que quelles sont les conséquences exactement? Ce serait rouvrir des contentieux au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'un équilibre commence à être trouvé. Et précisément, là, il s'agit de conforter l'équilibre actuel, de faire plaisir, de réconforter les victimes qui peuvent subsister, les personnes qui ont encore une mémoire de ces événements, sans pour autant compliquer la donne politique.
Merci beaucoup Guy Bourg-de-Lamotte d'avoir répondu aux questions de Dido, notre auditeur d'Isiro dans le nord-est de la RDC. On va accueillir un nouvel auditeur, il nous appelle de Dosso au Niger, c'est Amadou Moussa. Bonjour Amadou.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, heureux d'être parmi vous.
Bienvenue sur RFI Amadou, vous avez des questions vous sur l'arrestation d'un Français au Niger?
Effectivement, j'ai appris qu'un écrivain français a été arrêté dans le Niger. Je voulais savoir pourquoi il a été arrêté et quel est le rapport qu'il y a entre. Est-ce qu'il a un rapport avec un réseau djihadiste?
Alors, c'est Sébastien Némède du service Afrique qui va vous répondre. Il est en studio avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marie.
Alors, ce Français, donc c'est un écrivain, Thomas Dietrich, arrêté le 19 décembre à Agadez. Qu'est-ce qu'on sait sur ce qu'il faisait à ce moment-là au Niger?
C'est toute la question, Marie. En fait, selon lui, il était là-bas, à Agadez, pour le FIMA, le Festival International de la Mode en Afrique. C'était le 16 et 17 décembre. Ça a été créé par un styliste nigérien, Alpha Di. C'était la 10e édition. Donc, il était là-bas pour assister au festival, ça c'est sa version des faits. Maintenant, la version des autorités nigériennes est tout autre. En fait, Niamey le présente comme quelqu'un de proche de mouvements rebelles tchadiens. Selon le ministre de l'Intérieur du Niger, Thomas Dietrich serait même dangereux. Il travaillerait à déstabiliser le Tchad et son président Idriss Déby. J'ai même une source sécuritaire qui le présente comme un illuminé qui, en fait, après Agadez, projetait de se rendre en Libye pour rejoindre des mouvements armés rebelles tchadiens, puisque d'après certains, voilà, il y a des groupes armés tchadiens qui se reconstitueraient là-bas en Libye.
C'est aussi ces relations au Niger qui ont amené à avancer ces thèses-là.
En fait, ça pose question, puisque effectivement, lors de son voyage au Niger, il était en compagnie de Hissène Nouri, qui est en fait le fils d'un chef rebelle tchadien, voilà. Fils d'un chef rebelle tchadien très connu qui s'appelle Mahamat Nouri, qui est fondateur de l'UFDD, qui avait lancé, on s'en souvient, en 2008, une attaque même sur N'Djamena, ça avait fait vaciller le pouvoir. Donc en fait, sa relation avec Hissène Nouri pose question et intrigue, en fait, c'est vrai. Ouais.
Mais Thomas Dietrich s'est dit lui-même assez engagé avec l'opposition au président Déby.
C'est vrai qu'il se cache pas d'être opposé au régime tchadien, il le critique régulièrement pour notamment ses atteintes aux droits de l'homme. Quant au cas d'Hissène Nouri avec qui il était, il dit tout simplement que c'est un ami, mais Thomas Dietrich, à qui on a pu parler, dit qu'il, lui, n'utilise pas du tout les armes de rebelles, de mouvements armés tchadiens. Lui, il dit « ma seule arme, c'est ma plume. J'avais seulement ma plume dans mes bagages », c'est ce qu'il dit. Et donc son seul plan de rébellion, c'est le rêve d'un Tchad meilleur en paix. Là je le cite. Et puis il a dénoncé une détention arbitraire pour lui. Son arrestation au Niger, c'est une manœuvre en fait du Tchad et de la France qui aurait demandé à Niamey de le faire arrêter. Il y a même d'ailleurs le groupe de Mahamat Nouri qui a réagi. Mahamat Nouri, et donc le rebelle tchadien, a signé un communiqué disant que qu'en fait Thomas Dietrich était un pacifiste, un défenseur des droits humains, et qu'il ne sympathisait pas avec une organisation armée ou un parti politique de l'opposition tchadienne. Et donc Mahamat Nouri aussi a dénoncé cette arrestation qu'il décrit également comme arbitraire.
Une arrestation qui a donc été suivie d'une expulsion, et Thomas Dietrich est désormais interdit de séjour au Niger pour raison de sécurité intérieure de l'État. Merci Sébastien Némette d'avoir répondu aux questions d'Amadou Moussa qui nous appelait de Dosso au Niger. Il est 9h20 à Paris, la suite de notre première partie avec toujours vos questions sur l'actualité. Les questions maintenant d'Anissé qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Anissé.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Anissé, vous avez des questions sur un mouvement basque en France et en Espagne.
Oui. Plus récemment, j'avais appris à la radio que plusieurs membres de l'ETA sont arrêtés et l'organisation appelle à poursuivre la contestation. Ma question est de savoir comment cette organisation a-t-elle vu le jour, quelles sont ses revendications et ses influences aujourd'hui au Pays Basque.
Bonjour Barbara Loyer.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste de l'Espagne, enseignante et chercheur en géopolitique à l'Université de Paris 8. Vous allez pouvoir éclairer notre auditeur Anissé. On va revenir déjà à ces arrestations. 5 personnes arrêtées dans la nuit du 16 au 17 décembre dans le sud-ouest de la France. L'opération a été menée par les polices espagnoles et françaises contre l'organisation clandestine basque ETA. Une enquête a été ouverte et puis un arsenal a été saisi. Des armes de poing, des fusils d'assaut, des pistolets, des produits pouvant participer à la fabrication d'explosifs. On va en venir d'abord à la première question d'Anissé. Les origines du mouvement ETA et leurs revendications.
L'ETA, c'est une organisation qui s'est créée en 1959 pendant la période franquiste. C'est un mouvement nationaliste basque pour l'indépendance du Pays basque, qui ensuite qui a commencé à faire des victimes seulement dans les années 60, à partir de la fin des années 60, qui a fait en fait assez peu de victimes jusqu'à la mort du général Franco en 75. En 1977, il y a eu une amnistie, tous les militants de l'ETA ont été libérés, dans l'idée qu'il fallait faire une transition vers la démocratie, mais il y a un groupe qui a considéré que la démocratie qui se mettait en place en Espagne ne les concernait pas, que seule l'indépendance du Pays Basque c'était la démocratie, et qui donc a recommencé à tuer. Et la très grande majorité des victimes de l'ETA sont donc des victimes de la période démocratique avec comme slogan, si vous voulez, de l'indépendance du Pays Basque.
Est-ce qu'on a une idée du bilan de leurs attaques? Je précise juste hein, parce que le Pays Basque est une région à cheval entre la France et l'Espagne. Est-ce qu'on a un bilan de ces attaques? Vous disiez qu'elles étaient assez peu meurtrières sous l'ère franquiste, et ensuite elles ont fait des morts.
Il y a plus de 860 victimes. On ne sait pas le chiffre. Il y a des chiffres un petit peu différents parce qu'il y a beaucoup de crimes qui ont été non élucidés, notamment dans les années 70, où finalement la police n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Mais on est à plus de 860 victimes. Donc ça représente un traumatisme extrêmement profond pour la société basque.
Alors l'ETA a renoncé à la violence en octobre 2011. Alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de son influence aujourd'hui? C'était aussi la question d'Anissé. Il y a toujours, on l'a vu, des arrestations, des saisies d'armes. Quelle est l'influence aujourd'hui de ce mouvement?
En fait, du point de vue militaire, l'ETA n'a plus d'influence puisque la plupart de ses dirigeants ont été arrêtés et continuent d'ailleurs à être arrêtés par les polices espagnoles et françaises. En revanche, l'influence de ce qui influence énormément la société basque aujourd'hui, c'est la lutte pour imposer une version d'histoire. Si vous voulez, vous avez une société qui est divisée en deux. Une partie de la société veut qu'il reste dans l'histoire qu'il y a eu un groupe terroriste qui a essayé, qui s'est imposé et qui a commis des crimes. Et une autre partie de la société veut faire passer l'idée qu'il y a eu un conflit entre l'Espagne et le Pays Basque, même si en fait il n'y a que la moitié de la population basque qui vote pour des partis nationalistes. Donc pour l'instant, si vous voulez, le vrai enjeu de cette histoire, c'est quel est le récit de l'histoire qui va s'imposer. Est-ce qu'il va y avoir un récit de l'histoire officiel qui dira qu'on est dans un conflit entre Basques et État espagnol et français, ou bien est-ce qu'on va avoir une version officielle de l'histoire, une opinion publique qui va admettre qu'on est dans le cas de la fin du terrorisme et non pas dans la fin d'un conflit. Donc en fait, le vrai enjeu, c'est celui-là. Est-ce qu'on parle de fin du terrorisme ou est-ce qu'on parle de fin du conflit? Est-ce qu'il s'agit de la paix ou est-ce qu'il s'agit de la défaite d'un groupe terroriste? Pour l'instant, c'est ça, en fait, le problème.
Merci beaucoup, Barbara Loyer, politologue, spécialiste de l'Espagne. Vous avez répondu donc aux questions d'Anissé Alomé Otogo, qui s'intéressait donc à l'influence aujourd'hui du mouvement séparatiste basque ETA. Un dernier sujet pour cette première partie, il nous est proposé par Amadou, qui nous appelle d'Avignon, dans le sud de la France. Bonjour Amadou.
Et bonjour Marie, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Amadou, vous interrogez sur le cas d'un détenu à tort aux États-Unis.
Oui, bien sûr, Marie. Un ancien détenu du nom de Laurence Maquinet a passé 31 ans en prison et il a été libéré en 2009 après que des tests ADN l'ont innocenté. Du coup, en guise de dédommagement, l'État de Tennessee lui a versé un chèque de $75 la semaine passée qui est censé lui permettre de se réinsérer. Mais comment expliquer qu'un détenu qui a passé 31 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis soit dédommagé à $75, que dit la loi américaine là-dessus, et pourquoi a-t-il passé autant d'années en prison avant d'être libéré, y a-t-il eu des cas similaires?
Alors, c'est Anne Denis, responsable de la commission abolition de la peine de mort à Amnesty International France, qui va vous répondre, Amadou. Bonjour Madame Denis.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que c'est une histoire assez incroyable. Laurence Maquinet, qui avait 22 ans en 1977, quand il a été condamné avec un autre homme pour le viol d'une femme à Memphis, il n'avait pas reconnu les faits. Il a donc écopé de la peine maximale 115 ans de prison pour finalement être blanchi en 2009 après un test ADN. Mais lorsqu'il est sorti de prison, au bout de 31 ans, on lui a accordé $75 de dédommagement. On peut effectivement se demander pourquoi si peu, c'est quasiment symbolique.
Effectivement, c'est très surprenant, mais en fait, il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, ce sont 50 États fédérés et un État fédéral. Or, tous ces États ont leur propre constitution et leur propre législation. Il y a, la constitution des États-Unis d'Amérique s'applique à tous les États, mais pour le pouvoir judiciaire, c'est laissé à chaque État fédéré.
Alors, au Tennessee, comment on en est venu à ce calcul ?
Alors, normalement, il faut savoir que 31 États fédérés et l'État fédéral reconnaissent la possibilité de donner une compensation pour les personnes qui ont été inculpées par erreur et condamnées par erreur. Donc, il y a 19 États qui, n'ont rien prévu. Sur les États qui ont prévu quelque chose, le Tennessee, lui, a prévu une somme maximum global de $1 million pour quelle que soit la durée de l'internement. Donc, normalement, Laurence Maquinet aurait droit à $1 million. Pour cela, il faut que qu'il soit, si on peut dire, absous officiellement de la peine de la condamnation qu'il a amené à faire.
Et c'est pas le cas lorsqu'il a été blanchi, donc après ce fameux test ADN qui prouvait qu'il n'était pas sur les lieux.
Alors, il a été reconnu, il a été disculpé, si vous voulez, mais c'est là où on voit quand même la difficulté dans le système judiciaire américain, c'est qu'il y a toujours des petits côtés un petit peu tordus. Le comité des grâces et des libérations conditionnelles donne son avis au gouverneur. Et c'est le gouverneur qui doit prononcer l'absolution, si vous voulez. Et donc, maintenant, si le gouverneur de l'État du Tennessee décide d'assoudre totalement, officiellement, Laurence Maquinet, il va toucher quelque chose. Si le gouverneur ne veut pas le faire, n'agit pas ou dit non, je ne veux pas l'absoudre officiellement, eh bien, il n'aura droit à rien.
C'est tout le combat de cet homme, donc qui aura passé 31 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, entouré d'associations pour qu'il obtienne gain de cause. Merci Anne-Denis, merci à Amadou, notre auditeur d'Avignon, on se retrouve tout à l'heure pour le débat.
France 24 vous accompagne.